Chapitre 6. Camping. Maud aimait organiser les vacances. Elle était heureuse quand ses garçons quittaient leur chambre parisienne et profitaient du grand air. Elle ne se sentait par ailleurs aucun goût pour la vie de femme d'intérieur. En semaine, elle supportait mal la solitude. Elle sortait. Elle rencontrait Camille, Nino ou Diane qui travaillaient leurs textes. Les trains et les autobus l'accueillaient aussi de temps à autre, également avec son ordinateur pour ses chapitres en cours. Elle animait des ateliers d'écriture et des soirées lecture. De son côté, Annie, la mère de Delphine, ne prenait pas de vacances, à l'exception toutefois de ce dernier été en août 2015. Delphine et ses frères étaient ravis lorsqu'ils étaient enfants d'aller chez leurs grands-parents dans la ferme familiale. Annie avait préféré assurer sans interruption ses fonctions de gardienne, l'arrangement convenait à la copropriété, l'amélioration des finances n'était pas un mince avantage, Annie et son mari passaient les week-ends en Normandie et le couple n'était, tout compte fait, pas mécontent de cette organisation. Annie n'appréciait cependant pas certaines des contraintes liées à son travail. Elle trouvait, en cours d'année, lorsque son mari était absent, les journées désagréablement longues. Les enfants avaient quitté l'appartement et elle devait y demeurer du matin jusqu'en fin d'après-midi. Elle supportait mal ses heures de solitude. L'été 2015 se distingua de ceux des années précédentes. Le syndic avait changé et Annie s'était trouvée dans l'obligation de prendre des congés. Elle avait alors décidé avec son mari de partir une semaine en vacances dans un camping de Bretagne Sud. « Dis-moi, Delphine, » s'était intéressée Maud un jour où toutes deux profitaient du soleil sur la plage. La ligne habituelle des rochers affleurait avant la prochaine marée basse. « Tes parents sont contents? Leurs vacances se passent bien ?»« Pas vraiment, » avait répondu Delphine. « Maman est malheureuse. Elle trouve la semaine trop longue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle en a même pleuré. Ils sont rentrés plus tôt. » La mère de Luc était l'organisatrice incontestée des vacances familiales. Elle avait le privilège de naviguer dans Paris comme bon lui semblait au gré de ses inspirations du moment. La mère de Delphine n'avait pas apprécié ses récentes et exceptionnelles vacances et elle ne bénéficiait pas dans l'année de la précieuse liberté de Maud. Les mères de Luc et de Delphine ne menaient pas la même vie. Leur famille n'était décidément pas les mêmes. Chapitre 7. Opposé. Romain ne s'était pas réjoui le jour où son frère lui avait annoncé qu'il avait une petite amie. C'était une première pour Luc, et pour lui aussi d'une autre façon, puisqu'ils ne passaient plus ensemble l'essentiel de leur temps libre. « Ça ne durera pas, » avait-il dit à Maud. « Non, vraiment, c'est évident, Luc ne s'amuse pas. » Pas comme entre copains, il n'est plus le même, bien trop sérieux. Un jour, il y aura une crise, et ensuite, ce sera fini. Puis, de toute façon, avait-il ajouté, je vais te dire, Luc, s'il avait voulu choisir une petite amie qui soit au contraire, franchement, il n'aurait pas pu trouver mieux. En voilà une singulière idée, s'était dit Maud. En voilà une singulière idée, s'était dit Maud. Parce que je parle, avait-elle demandé. J'aime bien commenter, poser des questions. Romain avait approuvé. Mais c'est bien sûr, avait pensé Maud, parce que je brode, avec les mots, autour de la vie. Et aussi, j'essaye, autant que possible, de m'affranchir du matériel, alors que Delphine touche les choses. Elle les compte, elle les mesure, elle les regarde, les observe de l'extérieur. Le visible surtout retient son attention et aussi, accessoirement, elle est gourmande. Elle aime les éclairs au chocolat, les tiramisu, les frites, les hamburgers. Elle a le choix au restaurant, elle fait plaisir à regarder lorsqu'elle hésite. Elle sourit à Luc, elle réfléchit à son dessert du moment, alors que de mon côté je ne risque rien, je ne serai pas débordée, pas dépassée, pas vaincue par la matière, par la chair, la bonne chair, je contrôle. Je maîtrise le poids, la ligne, les calories. Je n'oublie pas. Luc se serait ainsi, d'après Romain, tourné vers une figure inverse de celle de sa mère. Une remarque toute simple, consignée ici, dans le but de compléter par petites touches l'ébauche du portrait de Delphine. Chapitre 8. La croisée des vents. L'une parlait, l'autre moins. Maud n'en était pas troublée. Elle voyait son fils plus actif depuis qu'il connaissait Delphine. Les jeux vidéo ne l'occupaient plus autant, le monde des adultes lui entr'ouvrait ses portes et il s'efforçait avec son ami de tenir le cap en direction du bonheur. Que Delphine lui ressemble ou non n'avait pas une si grande importance. Et pourtant, Maud se trouva un matin avec Thibaut à la croisée des vents. Ils déjeunèrent légèrement, se réservant pour le soir, où un dîner conséquent préparé par Thibaut les réunirait tous les cinq dans le jardin. Ils venaient d'apprécier l'une de leurs balades préférées. Celle-ci les rapprochait de la presqu'île de Quiberon. Ils dépassaient l'anse de Thil, où s'étendaient des rangées de parcs à huîtres, et ils atteignaient la croisée des vents. Le restaurant faisait face à une grande plage, peu fréquentée, où seules quelques familles profitaient des joies de la mer. L'endroit leur paraissait presque sauvage comparé à la station touristique de Kerbihan. Les vacanciers étaient rares, mais de nombreuses planches à voile croisaient sur les vagues du côté de l'extrémité ouest de la plage. La baie était connue pour ses rafales fortes et régulières, et elle était lieu de rendez-vous de toutes sortes de planches acrobatiques, de vitesse ou même d'impressionnants équipements de kite. Maud trouvait réjouissante cette animation voilière, alerte et colorée, qui se déployait à l'horizon du paysage. Un grand boulevard, vide de voitures, longeait la plage. Il aboutissait à un rond-point démesuré et désert, dominé par la croisée des vents. Le restaurant était l'unique bâtiment alentour, tout en vitres. Il semblait le vigile de la côte balayé par les vagues. Thibaut et Maud adoraient cet endroit au charme suranné. Ils avaient l'impression, lorsqu'ils approchaient de cette plage, de découvrir la Bretagne profonde, telle qu'ils l'imaginaient. Ils étaient connus par les serveurs qui les accueillaient avec le sourire. En même temps qu'elle bavardait ce jour-là et jouait aux échecs avec Thibaut, Maud apercevait un petit jeune couple qui déjeunait, mais qui ne trouvait visiblement rien à se dire. La gêne était lourde, elle les écrasait de son accablante omniprésence. Ils devaient tenter de passer quelques jours ensemble. Maud était affligée par ce spectacle. Ils ne savaient où porter leurs regards, parfois à droite, parfois à gauche, fuyant et évitant avec persévérance celui de l'autre. Maud supposait qu'ils auraient aimé pouvoir être ensemble, sinon pourquoi seraient-ils partis tous deux sur cette côte attachante et dépaysante? Ni l'un ni l'autre ne trouvaient les mots, et leur histoire se conclurait peut-être par un échec. La pensée de Delphine, qui n'était pas une grande commentatrice de l'existence, traversa l'esprit de Maud. Une crispation d'angoisse lui serra le cœur, puis elle se ressaisit. Il lui fallait raison garder. L'on pouvait sans doute réussir à s'aimer sans que l'une des personnes dans le couple se trouve être un clone d'elle-même. Il lui fallait admettre, se détendre et surtout avoir confiance. Elle aboutissait toujours à cette conclusion absolument nécessaire, la confiance qu'elle devait être capable d'accorder à ses fils et maintenant aussi à sa quasi-belle-fille. Réussir à ne plus contrôler, à accepter l'autre et la différence ne lui était assurément pas une attitude spontanée, mais elle s'y efforcerait, elle avait bon espoir. Chapitre 9. Une soirée Hercule Poirot. Maud avait commenté, puisque telle est sa nature, le relatif silence de Delphine. Elle s'en était ouvert auprès de Thibault.
Ce n'est pas faux, lui avait-il répondu. Elle ne parle pas beaucoup. Mais tu sais, l'autre jour, après une séance Hercule Poirot, les jeunes étaient montés dans leur chambre pour finir la soirée et je les entendais. Ils se demandaient quelle série ils allaient choisir. Ils s'esclaffaient, ils n'arrêtaient pas. Et Delphine participait. Elle parlait, elle riait. Elle n'était pas la dernière à s'amuser.
Un commentaire de Thibault, ajouté au portrait de Delphine. Elle écoutait, elle observait, mais elle plaisantait aussi et se distrayait. Chapitre 10. Musée. Les habitudes de Thibault, Maude et des deux garçons étaient bien établies depuis des années à Kerbihan. Cet été fut cependant légèrement différent en raison de la présence de Delphine. Le projet d'une visite guidée au musée de la préhistoire fut pour la première fois évoqué. Ce type d'activité de nature culturelle n'avait jusqu'alors jamais été entrepris. L'idée fut aisément adoptée par Thibault et les trois jeunes. Maude ne fut pas consultée, elle ne participa pas davantage à la sortie. Thibault n'avait pas pensé à la lui proposer. Elle n'entrait jamais dans un musée, pas plus d'ailleurs que Thibault, Romain ou Luc, mais elle était en général force de proposition en matière de loisirs. Elle n'avait cette fois-ci pas suggéré l'expédition envisagée et Thibault avait supposé qu'elle préférerait profiter de leur absence pour travailler ses textes. Elle n'avait jamais assez de temps, disait-elle, pour améliorer le rythme et la forme de ses phrases. De notoriété familiale, le musée ne la passionnait probablement pas, et elle se conforma tout à fait passivement à l'image que l'on avait d'elle. Elle disposait d'un moment de liberté. Il était attendu qu'elle se penche sur ses textes. Elle demeura dans la jolie maison. Elle pianota sur son clavier et se sentit au fil des heures un peu ridicule. Elle prit conscience qu'elle aurait bien aimé être avec eux. Le divertissement l'aurait détendue et sa solitude studieuse avait un goût prononcé d'austérité. Elle n'avait pas exprimé assez rapidement que son inclination personnelle avait peut-être légèrement évolué. Elle avait jusqu'alors régulièrement privilégié le travail du texte aux réjouissances diverses, sous réserve toutefois qu'elle ne joue pas le rôle de l'animatrice familiale. Mais ses goûts n'étaient visiblement plus exactement les mêmes. Son infime déception n'était bien sûr qu'un minuscule événement. Maude changeait comme tout un chacun. Il lui suffirait une prochaine fois de le faire savoir. Elle éviterait ainsi de réussir la magnifique performance consistant à se punir elle-même. Les quatre futurs visiteurs du musée partirent à pied en direction du vieux Kerbihan situé à 2 kilomètres de la station balnéaire. La route longeait les marais salants, elle traversait un grand rond-point et contournait un vaste parc communal pour enfants avec cordes, filets, toboggans, bacs à sable et belles surfaces de pelouse. Ils atteignirent la vieille église et pénétrèrent dans l'ancienne demeure bretonne, élégante et cossue, qui abritait le musée. Ils avaient parfois marché ensemble, ou bien séparés en deux groupes de deux, ou bien encore les jeunes d'un côté et Thibault de l'autre.
Delphine était silencieuse sur la route quand elle était avec moi, avait raconté Thibault à Maude lorsqu'il fut de retour. Mais dès qu'elle s'éloignait avec Luc ou avec Romain, je la voyais rire, elle s'animait. Elle n'inspirait vraiment pas la mélancolie.
Cette jeune fille est réservée, lui avait répondu Maude. Elle est timide avec nous, elle est impressionnée et peut-être c'est normal. Elle découvre. Cinquième partie, fléchissement. Chapitre 1, tabou. Lorsqu'ils étaient tous les cinq réunis, Delphine demeurait réservée, tandis que Maude avait tendance à occuper l'espace de la parole. La tâche n'était pas nécessairement aisée. Maud adoptait une démarche volontaire qui résultait le plus souvent d'un effort. Le succès était parfois au rendez-vous, il se montrait d'autres fois plus discret. « À table !» annonçait-elle le soir, pleine d'allant et d'énergie, à la façon de la très classique mère et épouse de la série familiale « Fais pas ci, fais pas ça ». Luc, Delphine et Romain descendaient du fin fond des combles, suivis par Tifou le coquère qui préférait définitivement la compagnie de la jeunesse à celle d'une plus calme maturité. L'on prenait place autour de la longue table de bois abritée par le pin maritime qui ombrageait le jardin. Maud essayait différents types de sujets, elle n'omettait pas de feuilleter les idées qu'elle avait notées sur son inséparable cahier depuis la veille au soir, date du dernier dîner familial. Elle ouvrait quelques pistes parmi différentes anecdotes d'actualité ou observations personnelles qu'elle supposait susceptibles de trouver un écho autour de la table. L'un des soirs de la semaine, elle fit retentir sa voix, forte et bien timbrée, en direction des étages supérieurs. Les jeunes descendirent. Ces tentatives pendant le dîner ne furent pas une franche réussite. Après le dessert, rituellement choisi par Thibault et tout aussi savoureux qu'à l'accoutumée, les mêmes jeunes regagnèrent les mêmes hauteurs de la maisonnette. Maud se chargea ensuite, comme les autres soirs, de l'intendance domestique. Elle débarrassa la table, emplit la vaisselle, rangea la cuisine. Une fois ces tâches accomplies, la soirée n'était pas encore très avancée. Il n'était pas tout à fait l'heure de se coucher. À cet instant précis, son courage disparut, corps et bien. Elle avait eu le sentiment, pendant le repas, de peiner, sans que le moindre frémissement de résultat ne se manifeste. Elle s'était échinée sur les pédales d'une antique bicyclette qui n'avait pas progressé d'un centimètre. Elle avait tenté d'ébranler un soc de charrue, fiché dans un sol dur et rocailleux. Un lourd animal de trait avait refusé de faire le premier pas. L'inertie et la pesanteur avaient gagné la partie. Elle baissait les bras, incapable de tenter de créer un semblant d'animation. La soirée s'achèverait ainsi. Qui s'en préoccupait? Chacun se retirait dans son coin avec, au bout du compte, la débâcle, la débandade, le néant tout proche. Il suffisait de tendre la main, il était là, à portée de doigt. Maud abandonnée, elle ne monterait pas les chercher, ne les questionnerait pas sur leur projet. À quoi bon souffler sur de pauvres braises destinées dans tous les cas à s'éteindre? La mort au fond de l'âme, elle irait se coucher, tous iraient se coucher, et le soleil le lendemain se lèverait. La terre accomplirait son inéluctable rotation, la vie suivrait son cours, identique quasiment. Son fléchissement d'un soir n'était rien, une minuscule ride, éphémère sur le miroir d'un lac de montagne. Maud fermait boutique, elle allait monter l'escalier, entrer dans sa chambre, enfiler sa chemise de nuit et se glisser sous les draps jusqu'au matin. Elle s'y apprêtait quand Thibault demanda, du fond du canapé, où il pianotait tranquillement sur son téléphone, « Dis-moi, « tu crois qu'ils veulent faire quelque chose ce soir ?»«
Attends, je vais voir, je vais leur demander, » répondit Maud.
Et elle courut vraiment jusqu'à l'escalier. Elle le gravit, puis l'échelle qui menait sous les combles. Chacun était sur son lit, lisait, jouait ou s'adonnait à une quelconque autre activité. Maud se campa en haut de l'échelle et lança d'une voix exprimant ostensiblement chaleur et décontraction en direction des deux chambres dont les portes étaient ouvertes.
« Alors, dites-moi, les jeunes, vous voulez faire quelque chose ce soir ?»
Quelques fractions de secondes suffirent au trio pour que regards explicites, mimiques significatives et hochements de tête approbateurs soient opportunément échangés. Leur accord fut immédiat. Ils descendirent et passèrent la soirée à
parler, justement. Pour le plus grand bonheur de Maud. On l'aura aisément compris. Le jeu de société tabou fut à l'ordre du jour. L'on décrit un objet mystérieux tout en évitant une liste de mots interdits. Le jeu où l'on parle, le jeu en conséquence, le plus apprécié par Maud, toutes catégories confondues. Ils s'amusèrent tous beaucoup ce soir-là. « Tu crois qu'ils veulent faire quelque chose ?» avait paisiblement demandé Thibault. Il ne soupçonnait pas le malaise de Maud. La vie lui paraissait alors tout simplement normale et sans problème. Maud l'avait entendu et un flot de joie avait déferlé en son cœur au moment même où, entraînée par ses pensées, elle dévalait la dangereuse pente du découragement. Elle ne comptait pas ses efforts pour que la vie ensemble ait du sens. Et il lui arrivait de trébucher. Elle s'interrogeait ensuite, une fois relevée. Que désirait-elle exactement? Quel idéal de joie, d'échange ou de communion voulait-elle donc atteindre? Elle s'en approchait parfois, elle s'en éloignait d'autres fois au risque de sombrer dans un marasme d'idées noires. Et pourtant, sous un autre regard, le même monde était différent, tranquille, serein. Thibault faisait preuve de calme. Il était mesuré. Maud l'en remercia intérieurement. Fort heureusement, ils étaient deux sur le chemin de la vie dont les chaos ne laissaient pas de la blesser. Aux yeux de Thibault, leur vie ce soir-là n'était en rien désespérante. Maud s'était empressée de substituer sa vision à la sienne propre. Ses paroles furent un baume, une caresse sur l'encolure d'un cheval de bonne volonté qui sent l'effleurement de la main humaine, qui se remet en marche